Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh. You did look prepare for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh. Everyone with a role to play to greet the Shabbos Kodesh. A priceless gift, a spiritual lift. Everyone finds a way to assist. Do whatever they can do for the Shabbos Kodesh. A pleasure for the Jew is the Shabbos Kodesh. A welcome labor, a heavenly favor, Shabbos.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Le Commentaire de la Paracha de la semaine avec Avraham Harold Weil, le grand rabbin de Strasbourg et du Bahreïn. Monsieur le grand rabbin, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous aujourd'hui?
Très bien, merci.
Baruch HaShem. Nous sommes à la Paracha, il y en a deux. Vous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Donc, la paracha Nitzavim Vayeler, l'allumage des bougies aujourd'hui. On se référera évidemment à l'entrée de Shabbat dans votre oratoire ou votre synagogue. Et la fin du Shabbat demain à partir de 20h33. Les horaires sont valables uniquement pour Strasbourg et sa région. Monsieur Grand Rabbin, deux parachiotes, comme on dit en pluriel, Nitzavim Vayeler. Pourquoi on met deux ensemble? Est-ce qu'il y a un ordre en général?
Alors, la question est très pertinente. Nous avons 54 parashiot dans la Torah. Or, comme vous le savez, une année traditionnelle, une année classique hébraïque est constituée de 353 jusqu'à 355 jours. Lorsque nous avons une année embolismique, il y a un peu plus de jours, entre 383 et 385, donc par définition une trentaine de jours supplémentaires. Ce qui fait que dans une année traditionnelle, eh bien, nous aurons grosso modo 50 ou 51 Shabbatot. Pour une année embolismique, 54 ou 55 Shabbatot. Étant donné que certains de ces Shabbatot sont occupés par des fêtes et que lors des fêtes, comme vous le savez, nous ne lisons pas la Parashat HaShavua, mais nous lisons un morceau d'une autre paracha qui est spécifique à la fête, eh bien, que nous soyons dans une année classique ou même dans une année embolismique où il y a plus de Shabbatot, il y a plus de parachiot dans un an que de Shabbat disponibles. Et donc, par définition...
Pourquoi on colle Vayeler avec Nitzavim?
Voilà, donc la question est de se poser... On comprend aisément que du fait qu'il y ait plus de parachiotes que de Shabbatot, eh bien, il faille nécessairement regrouper un certain nombre de ces parachiotes si nous voulons tenir le calendrier d'une année, puisque notre, comme vous le savez, notre tradition est de terminer la Torah d'une année sur l'autre et de la terminer le jour de Simchat Torah. D'ailleurs, je rappelle, c'est aussi intéressant que la paracha de Zot HaBeracha, la dernière paracha de la Torah, n'est jamais lue un Shabbat. Elle est systématiquement donc lue le jour de Simchat Torah. Rappelons donc, Jean, que c'est le choix, et c'est la question que vous posiez, le choix des parachiotes que nous avons décidés, qui ont été décidés en tout cas d'être donc choisis pour être accouplés ensemble, n'est pas dû au hasard. C'est la question qu'on pourrait se poser. D'ailleurs, il y a une grande dissymétrie dans ce choix, puisque si vous prenez le Sefer de Bereshit, le premier livre de la Torah, eh bien, il n'y a jamais aucune parachiote dans ce premier livre qui n'est associée à une autre. Aucune des parachiotes donc, qui n'est associée à une autre. Dans le livre de Shemot, il y en a une seule. C'est un couple uniquement qui peut fonctionner, c'est Vayakal Pekoudé, donc les deux dernières sidrotes du livre de Shemot, mais pas d'autres couplages possibles. Et nous avons donc dans le livre de Vaïkra trois possibilités, dans le livre de Bamidbar une seule, dans le livre de Devarim également. Donc vous voyez qu'il n'y a pas une grande harmonie finalement dans le choix de ces parachiotes. Mais pour autant, eh bien, cela répond à une logique. Et cette logique-là, elle vise tout simplement à faire en sorte que certaines parachiotes, ou d'une manière générale, l'ensemble des parachiotes correspondent toujours à certains moments du calendrier. D'accord. C'est-à-dire que les parachiotes que nous lisons le Shabbat doivent, pour certaines d'entre elles, systématiquement être lues avant telle fête ou tel événement. Mmh. Je donne un exemple. Nos maîtres nous enseignent que la parachat Kitavo, dont nous avons donc fait la lecture la semaine dernière, eh bien, doit systématiquement être lue avant Rosh Hashanah, car elle contient... Nous l'avions dit la semaine dernière, un certain nombre de malédictions, et que ces malédictions doivent être lues avant Rosh Hashanah. Donc il faut s'arranger dans le calendrier pour que cette parachat Kitavo ne tombe jamais après Rosh Hashanah. Et il en va de même donc, pour d'autres moments dans l'année. Je ne vais pas rentrer maintenant dans tous les détails. Et ce qui fait que ce n'est pas forcément toujours les parachutes les plus courtes qui sont associées ensemble. C'eût été logique de choisir deux parachutes extrêmement courtes. Et parfois, on se retrouve à associer deux parachutes qui sont longues, mais tout simplement pour faire en sorte que certaines parachutes soient systématiquement lues à proximité de tel ou tel événement dans l'année.
On passe au commentaire, au résumé de la paracha,
sur Grand Rabbin. Voilà, donc nous avons deux parachutes extrêmement courtes. Là, pour le coup, les deux sidrotes que nous accouplerons demain sont chacune d'entre elles extrêmement courtes. Et on se rapproche de la fin du récit de la Torah, avec donc les dernières recommandations de Moshe, de Moïse, avant de quitter ce monde. Dans la parashat Nitzavim, Moïse va rassembler la totalité du peuple. Atem Nitzavim, Ayom Kulchem, vous êtes tous aujourd'hui dressés, Lifnei Hashem Elokechem, devant Dieu. Et donc Moshe va délivrer ce dernier message qui va mettre en garde le peuple contre un certain nombre de choses, qui va leur rappeler l'importance de ce qui est en train de se passer, l'alliance, les méfaits de la Avodazara, de l'idolâtrie, donc un certain nombre de recommandations. Voilà ce dont il sera question principalement dans la parashat Nitzavim et dans la parashat Vayeler. Donc ces deux parashats sont très courtes. Nitzavim, on évoquera également le sujet de la tshuva, la proximité. C'est important vraiment de rappeler au peuple qui peut douter à ce moment-là que toutes les choses qu'il va être amené et tous les défis qui vont lui être lancés sont à sa portée. C'est très très important de rassurer avant ce grand passage. On va en parler. Et dans la parashat Vayeler, on pourrait résumer cette paracha comme tout simplement l'adieu, l'au revoir de Moshe qui s'apprête à quitter ce monde, qui en est conscient. Moshe a 120 ans et il va donc passer le pouvoir et transmettre le témoin à Yehoshua. Voilà un petit peu ce dont il sera question dans cette paracha de Vayeler qui est une paracha encore plus courte que Nitzavim.
Alors dans Nitzavim, il y a de façon globale, un schéma qui est demandé, c'est de renouveler une alliance. Ça veut dire quoi, l'ancienne n'était pas bonne? Quelle différence entre la nouvelle et cette nouvelle alliance et l'ancienne? Qu'est-ce qu'on a voulu dire dans cette renouvelée, une nouvelle alliance?
Alors la première chose qui nous interpelle déjà dans les choix qui ont été, les termes qui ont été choisis ici, c'est les ovrecha. C'est-à-dire que lorsqu'on nous parle ici d'alliance, on nous parle d'un passage dans une alliance. Il n'y a pas de venue, on ne nous parle pas d'une biacha, on ne nous parle pas de la venue dans l'alliance, mais véritablement d'un passage. Comme si ce passage-là m'obligeait en quelque sorte vraiment à me transformer. C'est un passage qui fait qu'il y avait quelque chose avant et qu'il y aura quelque chose après. Il y a une véritable transformation, une véritable évolution qui fait que dans cette alliance que je scelle avec Akadosh Baruch Hu, je m'engage à accepter d'être quelqu'un d'autre et à vivre tout simplement quelque chose d'autre. Je crois que cette alliance, non pas que la première soit caduque, soit mauvaise, mais que, encore une fois, au moment où Moshe Rabbeinu s'apprête à quitter ce monde et au moment, et je crois que c'est peut-être encore plus important que la disparition de Moshe, même si elle sera forcément un choc et que pour le peuple, il faudra apprendre à vivre sans ce personnage qui les a accompagnés pendant 40 ans, qui les a suivis depuis le début de leur histoire, depuis l'Égypte. Pour autant, il est véritablement fondamental pour le peuple de comprendre que l'entrée en Eretz Israël est quelque chose qui va perturber les habitudes, qui va leur proposer un nouveau défi. Et ce moment-là, qui était vraiment un moment de risque parce que le peuple peut perdre pied et il va apprendre à vivre différemment, la présence d'Akadosh Baruch Hu différemment, non plus comme, j'ai envie de dire, presque un enfant gâté ou un enfant qui est accompagné systématiquement, mais avec une certaine indépendance. Et il est donc important de rappeler cette alliance, ce brit, et la manière dont cette alliance peut se vivre vraiment à long terme et se faire dans les meilleures conditions à ce moment-là, juste avant la disparition de Moshe.
Il y a une deuxième notion importante dans cette parasha de Nitzavim, c'est la notion de achdout, d'être ensemble. Là aussi, c'est une notion de responsabilité mutuelle. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Cette notion de achdout, effectivement, c'est une notion extrêmement importante. On voit que Moshe tient, au moment où il délivre son dernier message, à ce que tout le monde soit présent, sans exception, quel que soit le statut social. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Moshe décide de réunir tout le monde en même temps, parce qu'il aurait pu s'adresser à tout le monde, mais en plusieurs temps et en choisissant de séparer éventuellement les classes sociales, les âges, etc., Moshe choisit de s'adresser à tout le monde en même temps, pour bien faire comprendre quel que soit son âge, quel que soit son statut social, quel que soit peut-être son implication religieuse, peu importe, eh bien, nous avons tous la même responsabilité vis-à-vis de Dieu, nous avons tous cette même responsabilité mutuelle, nous connaissons ce principe de Kol Israël, Arivim Zelazé, et donc que personne n'a imaginé qu'à partir du moment où il vit sa vie et qu'il n'embête personne, qu'il n'a aucune responsabilité vis-à-vis des autres. Non, nous sommes responsables vis-à-vis des autres, ce qui veut dire que toutes les décisions que je suis amené à prendre dans ma vie ont nécessairement un impact sur les autres, parce que nous sommes, et c'est notre conviction la plus profonde, nous sommes dans le même bateau, nous vivons un projet commun. Je crois que les événements que nous vivons depuis quelques mois maintenant nous rappellent à quel point l'humanité entière est embarquée dans le même bateau et vit ce projet commun. Et un projet commun, eh bien, par définition, ça se partage avec les autres. Et les décisions que je prends, même lorsque ce sont des décisions privées, elles ont nécessairement un impact sur les autres. Je dois toujours avoir ça à l'esprit. Et à la veille de Rosh Hashanah, et vous le savez, Jean, ce que nous disent nos maîtres, Atem Nitzavim Hayom, lorsque la paracha nous dit « Vous êtes dressé aujourd'hui », eh bien, on connaît les commentaires, notamment du Zohar, qui nous dit « Aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah ». Donc, ce n'est pas pour rien qu'on lit Nitzavim avant Rosh Hashanah. Le peuple entièrement qui est dressé devant Dieu, avec cette responsabilité commune, c'est la responsabilité commune que nous avons lorsque nous nous dressons devant Dieu pour le jour du jugement, jour de Rosh Hashanah.
Chapitre 29, verset 28, « Les fautes cachées sont pour Hachem, notre Dieu, et les fautes à révéler sont pour nous et nos enfants pour toujours. » Deux questions, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi pour toujours ?
Alors, encore une fois, c'est quelque chose vraiment à accepter. Il faut toujours comprendre que nous avons certaines limites, que dans les choses qui sont révélées, bien certaines choses ne seront jamais accessibles à l'homme. C'est quelque chose vraiment de nécessaire et qui permet aussi de relativiser, notamment par rapport à la notion justement de responsabilité. Voilà, se rappeler que certaines choses sont du domaine d'Akadosh Baruch Hu, sont du domaine de Dieu. Ici, a priori, premier sens de ce verset, lorsqu'on parle de Nistarot, ce sont les fautes cachées. Et rappeler, parce qu'on a beaucoup parlé de cette responsabilité, qu'Akadosh Baruch Hu a conscience de ces fautes cachées. Donc ça, c'est quand même aussi important de se rappeler qu'on devra rendre des comptes sur chaque chose, et que tout ce qui est caché est malgré tout su d'Akadosh Baruch Hu et connu par Dieu, qu'on n'en vienne pas à imaginer qu'on puisse utiliser toutes sortes d'arguments pour se dédouaner. Donc il y a vraiment deux notions importantes. Premièrement, le fait de savoir que tout ce qui est caché, ou ce qui nous semble caché, ou qu'on pourrait imaginer que les hommes, ou que la personne qui se trouve en face de moi ne puisse pas forcément savoir, et bien tout cela, par définition, c'est su, c'est connu par Dieu, c'est intégré par lui, et on ne peut pas tricher, avec Akadosh Baruch Hu. Deuxièmement, également nous rappeler nos limites, c'est-à-dire une compréhension un peu plus générale et plus globale, savoir que l'homme a accès à une partie de la compréhension des choses, une autre partie, celle-là, elle est vraiment uniquement intégrée par Akadosh Baruch Hu, et c'est important aussi dans le cadre d'un message d'encouragement, parce que je l'ai dit, Moshe n'a pas choisi par hasard toutes les expressions qui vont être employées, c'est vraiment le message de la fin, et donc rappeler au peuple que certaines choses, il aura forcément du mal, parfois, à en comprendre le sens, à en voir le bien. Parfois, on cherche quel est le bien qui peut sortir de quelque chose et on s'interroge, on se pose beaucoup de questions et on se demande si véritablement le monde est juste, Dieu est juste. Le fait de savoir que certaines choses nous échappent complètement, qu'elles sont un secret qui appartient à Kadosh Baruch Hu, peut nous permettre de relativiser, de prendre du recul par rapport à ça et de savoir que même les choses que nous ne comprenons pas s'inscrivent dans un projet qui, lui, est nécessairement un projet de tov, un projet de bien.
Alors, on va avancer dans le verset 6 du chapitre suivant. Il est écrit « Dieu circoncira ton cœur ». Alors, j'imagine que le terme « circoncire » n'a pas été choisi au hasard. Je me trompe ou il y a une corrélation ?
Pas du tout, puisque cette notion de Mila, elle existe, et d'enlever la Orla, c'est ça ce dont il est question ici, ce qu'on appelle la Orla Talev, c'est-à-dire ce petit morceau qui pourrait, cette excroissance de peau qui pourrait, de la même manière qu'elle vient recouvrir donc l'appareil génital du petit bébé mâle lorsqu'il naît, naturellement, et donc que nous avons pour devoir, et comme mitzvah, donc de retirer le huitième jour, eh bien, il existe symboliquement vêtement exactement, quelque chose qui pourrait venir un petit peu recouvrir le corps et l'empêcher de faire les bons choix. Mmh. L'empêcher de sourire, l'empêcher de faire les bons choix, le pousser à faire le mal. Et donc, bien sûr qu'il y a un parallèle, bien sûr qu'il y a un écho, puisqu'on sait que la Brit Mila, et c'est pas pour rien qu'elle se fait sur cet organe-là, elle est là un petit peu pour affaiblir justement ce penchant naturel que l'homme pourrait avoir. Et donc, si on a choisi, si la Torah nous demande de le faire à cet endroit-là, précisément, c'est parce qu'il y a une volonté ici un petit peu de casser cette énergie débordante et naturelle qui, malheureusement, pourrait amener l'homme à faire des mauvais choix et surtout à faire des mauvais actes. Eh bien, en ce qui concerne le cœur, c'est exactement la même chose. Mmh. L'expression qui est choisie ici, bien sûr, n'est pas le fruit du hasard. Le même objectif que la Brit Mila, à savoir également de permettre à l'homme de tempérer un petit peu cet excès d'énergie et ce yetzerara, ce mauvais penchant qui l'amène parfois à naviguer dans des eaux troubles.
Vous en avez parlé tout à l'heure. On dit dans la Torah, dans la paracha, que la Torah n'est pas cachée ni éloignée. Donc, si elle n'est pas cachée ni éloignée, elle est proche. Comment on sait pour se rapprocher de la Torah ?
Alors, il faut savoir déjà que ce passage est interprété de deux manières différentes. En fonction de nos maîtres, on se demande, il est introduit par un verset très célèbre qui nous dit « Qui a mitzvah azot ?» Car la mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui, eh bien, elle n'est pas extraordinaire et on va évoquer le fait qu'elle n'est ni dans le ciel ni de l'autre côté de la mer pour que tu puisses éventuellement argumenter en disant qui va aller dans le ciel pour me la chercher ou qui va traverser l'océan pour me la ramener. Non, elle est proche de toi. Et donc la question est de savoir de quoi on parle lorsqu'on dit qu'il y a mitzvah. Alors, discussion entre nos maîtres, est-ce qu'il s'agit de l'ensemble de la Torah ou est-ce qu'il s'agit de la mitzvah dont on vient de parler juste avant, à savoir celle de la teshuvah? C'est une réflexion assez intéressante parce que s'il s'agit de la teshuvah, eh bien, ça serait peut-être le début. Le début, c'est peut-être d'être capable déjà de reconnaître ses imperfections, d'être capable de savoir exactement où on se situe. Je pense que c'est vraiment quelque chose, c'est bien sûr pas un hasard si on nous parle de teshuvah dans la paracha de cette semaine, juste avant les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour, puisqu'il est question, pour ceux qui ont déjà commencé les slichot, pour les ashkenazim qui les commenceront dimanche, il est question de teshuvah pendant tout ce mois d'Elul. Il sera question de teshuvah pendant toute la première période et la première partie du mois de Tishri, et donc savoir que peut-être le début, le commencement, ce qui nous permet de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est déjà de faire le point sur soi, c'est de savoir où on en est, de savoir ce qui ne va pas,
à quel
et à partir du moment où on a fait un bilan, eh bien, on va pouvoir
à quel niveau le bilan
se rapprocher.
C'est sur ce qu'on a dans la tête, dans le cœur.
Tout à fait. Le bilan, c'est sur ce qui ne va pas. C'est sur les choses qui ne sont pas correctes. C'est avoir un regard honnête vis-à-vis de soi. Vous savez, il y a
vis-à-vis du religieux.
Il y a un adage chassidique. Il y a un adage chassidique très très beau qui disait : je préfère le rachat, je préfère le mécréant qui a conscience de ses fautes, qui a conscience de ce qui ne va pas, que le juste qui a conscience que c'est injuste. Parce que on comprend aisément ce que veut dire cet adage. Le juste qui comprend que c'est injuste, lui, il peut avoir tendance à s'envoler. Le rachat qui a conscience de ses fautes, de ses erreurs, eh bien, il va pouvoir se reprendre et il est déjà dans une dynamique, dans une démarche qui est extrêmement positive. Donc la première chose dans la démarche, dans le fait de se rapprocher, c'est déjà de faire le point, de faire le bilan, de savoir ce sur quoi on doit travailler, ce qui ne va pas, et d'avoir envie de changer. Je crois que c'est ce qui est important dans la tshuva. On n'a pas le temps maintenant de reprendre toutes les étapes, notamment le Rambam, Maïmonide, développe ça en long et en large. C'est le regret de ses fautes, c'est la capacité verbalisée systématiquement. C'est très très important d'être capable de verbaliser les choses, que ça ne reste pas simplement dans la tête, mais de dire ce qui ne va pas, et surtout de s'engager à ne pas recommencer. Donc il y a plusieurs étapes. Ces étapes-là, elles sont extrêmement importantes, et elles sont tout simplement importantes parce qu'il n'y a qu'en verbalisant les choses et en exprimant le regret qu'on a, le dégoût par rapport à ce qu'on a pu faire et l'envie surtout de ne pas recommencer et de faire différemment, eh bien c'est la seule manière de pouvoir repartir sur de bonnes bases.
Chapitre 1, verset 19. « Et tu choisiras la vie. » Il y a un autre choix ?
Chapitre 30,
excusez-moi,
verset 19.
Ouais.
Effectivement, donc il est choisi ou Bacharta Bachaim. Alors ça a l'air d'être une évidence, presque une la palissade. Bien sûr, on choisit la vie lorsqu'on a le choix entre la vie et la mort. Je crois que malgré tout, voilà, la Torah souhaite ici et tient absolument à nous préciser l'importance que ce choix a. C'est-à-dire que choisir la vie, ça a une importance, bien sûr, non seulement pour la personne, et c'est la suite du verset qui est intéressant, les man tirhie ata vezarecha, mais pas simplement pour moi. Et ça vient exacerber ce principe de responsabilité collective dont on parlait tout à l'heure, Jean. C'est ubacharta bachaim, les man tirhie ata vezarecha. C'est ça ce qu'on nous dit. Pourquoi est-ce que tu dois choisir la vie? Tu dois choisir la vie pas simplement pour toi, mais parce que en faisant ce choix, puisqu'il y a deux choix qui s'offrent à toi et que ces choix doivent être faits en connaissance de cause, c'est pour ça qu'on t'indique, tu as la possibilité de choisir autre chose. Mais sache que si tu choisis autre chose, eh bien, ça n'aura pas simplement une implication sur toi, mais sur ta descendance, sur ton entourage, et que ça peut se transmettre à des centaines, voire des milliers de personnes. Donc, c'est exponentiel. Et donc, il est véritablement important de savoir au moment où tu t'apprêtes à faire un choix décisif, que ce choix-là n'implique pas uniquement ta personne, mais qu'il implique également ta descendance, qu'il implique ton entourage, qu'il implique tout un tas de personnes qui se trouvent autour de toi. On en revient à ce principe de responsabilité collective qui est fondamental et qui doit m'amener à faire le bon choix. C'est fort de cette responsabilité collective, de l'intégration profonde de ce sentiment de responsabilité collective que je serai amené à faire le bon choix.
Alors, on va passer, parce que j'avais plein de questions, mais le temps nous presse, et donc on va arriver au moment où la paracha nous parle de Sukkot et de la Shmita tous les 7 ans. Quel rapport entre la Shmita, les 7 ans, et Nitzavim, Vayeler, la Tshuva, etc.
Alors, nous sommes au début de la paracha de Vayeler, et la paracha de Vayeler va nous parler d'une mitzvah qui est une mitzvah pas forcément connue du grand public, mais qui est très intéressante, qui est la mitzvah d'Hakel. La mitzvah de Hakel, elle consistait à rassembler la totalité du peuple, aussi bien les hommes, les femmes que les enfants, qui se rassemblaient donc au temple de Jérusalem. Et on procédait à ce moment-là à la lecture du livre de Devarim, du Deutéronome, par le roi en personne, le Melech. Et ce moment-là, eh bien, avait lieu à l'issue de la Shemitah. Donc c'est ça ce qui est intéressant. D'ailleurs, c'est intéressant qu'on nous dise Shnat HaShemitah, mais en réalité, Rashi nous le précise ici, il ne s'agit pas de la Shemitah, mais de l'année qui suivait la Shemitah, donc l'année de Jachère. Et ça se passait au moment de Sukkot. Donc c'était juste l'année qui suivait. La Shemitah se terminait à Rosh Hashanah, et on rentrait dans la 8e année. Et lors des fêtes de Sukkot, c'est à ce moment-là qu'on se rassemblait pour la lecture.
Alors, le rassemblement, ça a une importance, ça.
Bien sûr, parce qu'on cherche à faire passer encore une fois un message et à l'ensemble du peuple. Donc toujours cette notion de responsabilité collective, c'est rassembler tout le monde ensemble pour dire à quel point il est important que le peuple soit conscient du rôle collectif qu'il a à jouer. C'est rappeler un message qui est très important. C'est tout le message de Devarim. On a eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que dans Devarim, eh bien, Moshe Rabbeinu va faire un long discours. Il va revenir sur les choses qui sont les plus fondamentales avant de quitter ce monde, du Sefer de Bereshit jusqu'au Sefer de Bamidbar. Ben là, on est beaucoup dans l'histoire du Klal Israël, depuis la création du monde jusqu'à son entrée en Eretz Israël, et que dans le livre de Devarim, c'est plutôt un message moral qui est porté. Pourquoi Sukkot? Vous m'avez posé la question. Parce qu'on peut se poser la question, pourquoi cette mitzvah, ce grand rassemblement de Hakel, avait lieu nécessairement à Sukkot? Pourquoi ne pas le faire à Shavuot? Pourquoi ne pas le faire à Pessah? Qu'on le fasse lors d'une des fêtes de pèlerinage, on le comprend aisément. C'est un moment où tout le monde se rassemblait, montait à Yerushalayim. Bon, pour des raisons tout simplement techniques, il est logique de choisir une fête où le peuple, de toute façon, prenait congé pour pouvoir se rendre à Jérusalem. Mais pourquoi ne pas avoir choisi Pessah ou Shavuot? Pourquoi Sukkot? Et pourquoi à l'issue de l'année de Shemitah? Eh bien, parce que Sukkot, nous dit Znomet, notamment, petit clin d'œil au Znaïm la Torah, le Rav Sourutskin, qui dans son commentaire fait remarquer que la fête de Sukkot est appelée Chag HaAsif. C'est la fête où l'on engrangeait la récolte, et c'est justement parce qu'on était fiers de ce qu'on avait engrangé qu'on nous demandait de sortir dans la soukha pour ne pas qu'on ait la grosse tête et qu'on en vienne à se dire que, ben, au fond, on est hyper puissant, on est surpuissant, on peut constater toute l'importance de la récolte et des richesses qu'on a accumulées. Donc on sort dans la soukha pour se remettre un petit peu les idées en place. Le fait de célébrer ce moment de Hakel à Sukkot, c'est de nous dire, eh bien, l'année dernière, tu n'as pas travaillé. Donc cette année, il n'y a peut-être pas d'engrangement, il n'y a peut-être pas toute cette récolte matérielle. Mais il y a une autre sorte de récolte. C'est une récolte spirituelle. C'est de comprendre que cette récolte spirituelle, elle a aussi son importance. Et donc ça doit se faire à Sukkot. L'issue de l'année de Shemitah, je dis encore un mot parce que c'est important. Pourquoi à l'issue de l'année de la Shemitah ? Parce que la Shemitah est justement l'année qui nous a permis de remettre un petit peu les choses en place, de nous rappeler que ce monde-là, eh bien, il appartient à Kadosh Baruch Hu, que nous avons uniquement l'autorisation d'en profiter, de le travailler. Et donc on profite, on surfe un petit peu sur la vague spirituelle et sur le fait que le peuple soit renforcé par cette année spirituelle qu'il vient de vivre de Shemitah pour lui délivrer ce message contenu dans la lecture du Sefer Devarim.
Alors, je veux parler de la mort de Moshe, mais on n'aura pas le temps. Il est décédé. Par contre, dans la fin de la paracha, on parle d'un cantique, sans jamais le nommer. Il faut aller un peu plus loin dans la Torah pour savoir de quel cantique il s'agit. Pourquoi une telle importance sur ce cantique de Hazinu ?
Alors, on nous parle d'un témoignage et on nous parle effectivement d'une Shira. Et cette Shira, on nous dit que c'est la parashat Hazinu, c'est le cantique de Hazinu, donc qu'on lira la semaine prochaine, qu'on lira lors du Shabbat, enfin pas Shabbat prochain, plutôt le Shabbat suivant, parce que Shabbat prochain c'est Rosh Hashanah. Donc, dans le cadre d'Aseret Yemei Teshuvah, des 10 jours de pénitence, le Shabbat Shuvah, le chant. Le chant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de nos maîtres développent cette idée de l'importance du chant, de l'harmonie qui se cache à l'intérieur du chant, c'est-à-dire faire coïncider, réussir à trouver quelque chose d'harmonieux et se coordonner plusieurs notes, plusieurs tonalités différentes. Ben, c'est un petit peu ça, finalement, le monde, la création du monde. C'est Akadosh Baruch Hu est un grand chef d'orchestre qui a réussi à faire en sorte que plusieurs éléments, qui sont a priori très différents les uns des autres, puissent continuer à jouer ensemble, à fonctionner en harmonie. Si un jour on en vient un petit peu à s'éloigner de cette idée, eh bien la Torah sera toujours là justement comme le témoignage de cette harmonie parfaite qui existe, de nous rappeler que cette Torah, elle est intemporelle, elle traverse les siècles, que son message, le message qu'elle véhicule est un message intemporel, et le fait de le faire sous la forme d'un chanson, sous la forme d'une shira, d'un cantique, eh bien, est là pour nous rappeler cette harmonie éternelle qui règne dans le monde tel que la Torah le prévoit.
On se retrouve la semaine prochaine, ce sera la veille de Rosh Hashanah. On parlera, merci à M. Gourabin. Shabbat shalom et prenez soin de vous. Merci à Lucas pour la réalisation technique de l'émission. Et à vous tous et à vous toutes, Shabbat shalom, portez-vous bien, soyez prudents.
Shabbat shalom.
Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Yudelech prepare for Shabbos Kodesh, joy is in the air for Shabbos Kodesh, everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh, everyone with a role to play to greet the Shabbos Kodesh, a priceless gift, a spiritual lift, everyone find